bonjour à toutes et à tous. On vous remercie d'être présents aussi nombreux pour cette 11e conversation qui met à l'honneur Sarah Delpino, qui est l'artiste qui a réalisé l'exposition qui nous entoure. Alors moi, je voulais juste dire un petit mot pour resituer le principe des conversations. Donc, à l'occasion de chaque exposition monographique aux ateliers Vortex, on propose à l'artiste exposé de combiner une personnalité dont l'activité est extérieure au monde de l'art pour se prêter à un temps d'échange et de discussion autour de thématiques qui l'intéressent et qui sont en lien ou non avec sa pratique artistique. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que je sais que Sarah a tout prévu. Et donc je vais laisser Sarah et Angelica Rossa se présenter, et simplement je vous précise qu'à la fin de la conversation on vous propose de passer un petit moment convivial autour d'un apéritif qui sera offert au rez-de-chaussée. Voilà. Et bon, je vous souhaite un bon moment et puis à tout à l'heure.
Merci. Bonjour. Bon, bah, voilà, donc moi je m'appelle Sarah Delpino, je suis l'artiste qui a réalisé du coup l'exposition. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir l'expo ou qui savent pas trop, enfin qui n'ont pas trop compris, je pourrais faire une présentation après la conversation. Voilà. Bon alors du coup je vais. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, si vous avez des questions pendant l'échange, c'est vraiment ouvert, donc n'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole, à intervenir. Voilà, donc je vais te présenter, donc Angelica Rossa, donc elle est chercheuse au CNRS de Grenoble, donc au synchrotron à l'accélérateur à particules de Grenoble, et du coup tes recherches sont principalement sur les profondeurs de la Terre et comprendre combien d'eau, quelle quantité d'eau on a dans la profondeur de la Terre. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose.
Non, c'était une bonne sommaire.
Ok. Et du coup, moi, je vais un peu vous parler de qu'est-ce qui a nourri toute cette exposition. Donc moi aussi, ça fait 3 ans que je travaille sur les minéraux, et plus particulièrement des minéraux qui sont appelés sous le nom d'amiante. Donc l'amiante, c'est un terme industriel donc, qui regroupe deux familles de minéraux, les amphiboles et les serpentines. Et du coup, on a ça en commun avec Angelica parce qu'on travaille toutes les deux sur ces roches. Et on s'est rencontrés en fait lors de mon tournage. Donc là, en ce moment, je réalise un moyen métrage. Et on s'est rencontrés lors de ce tournage à Grenoble, du coup, à l'accélérateur à particules. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je m'intéresse en fait à la porosité entre la science et la fiction. Pour moi, la science, en fait, c'est une fabulation de notre monde, et comment dire, la science a besoin de fabulation pour être sensible au réel, et à l'inverse la fiction a besoin de la science pour imaginer les mondes possibles et les mondes de demain. Voilà, et moi je m'intéresse à un champ de la fiction un peu particulière, plutôt la science-fiction féministe dans le sens que c'est des penseuses, plein de femmes qui m'intéressent par leur manière de voir le monde, et elles, donc c'est plutôt le courant de l'écoféminisme qui m'a inspirée dans tout ce travail-là, parce que c'est de penser non pas notre planète, par exemple les roches, comme des ressources à exploiter, comme un matériau de construction, comme on a vu avec l'amiante, mais plutôt de reconsidérer du coup nos roches comme des êtres vivants. Et en cela, ça a vraiment impacté ma manière de regarder le monde. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que là, dans cette conversation, on va plutôt explorer du coup l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'il y a dans ses profondeurs et comment on perçoit la planète et le milieu grâce à ces roches, les serpentines et les amphiboles. Donc voilà. Et du coup, j'ai une première question à te poser, Angélica.
Oui, avec plaisir.
C'est de savoir, donc pour toi, de ton regard de scientifique, qu'est-ce que c'est l'amiante ?
L'amiante, comme tu as déjà expliqué, c'est une expression pour un groupe de minérales. C'est une expression industrielle pour un groupe de minérales. C'est inclus les serpentines et les amphiboles. Nous, dans la minéralogie, on ne parle que les serpentines et amphiboles qui sont des minéraux qui portent l'eau et qui ont l'eau dans leur structure. Et ça, c'est quand on parle de ces minéraux, en fait, c'est des minéraux qui peuvent avoir plusieurs formes. On parle des polymorphes. Et moi, comme minéralogue, c'est le plus important de savoir les structures. Les structures, ça veut dire comment les atomes sont arrangés. Comme les chaises ici, nous, on cherche de savoir comment les atomes sont arrangés, où il y a l'eau et quoi fait l'eau avec cette minéral. Est-ce qu'il change les propriétés et oui, est-ce qu'il peut être porté dans l'intérieur de la Terre? Et pour toi, c'est comment tu regardes le amiante après toute une exposition, toute une recherche.
Toutes mes recherches.
Toutes tes recherches.
L'amiante, moi je le vois comme plein d'une richesse de roches qui ont plusieurs formes, qui ont plusieurs couleurs, qui ont été placés un peu de partout dans notre monde à leur dépens et qui du coup ont suscité beaucoup de craintes et à bon escient parce que effectivement l'amiante ça a quand même tué beaucoup de personnes et ça tue toujours des personnes et c'est toujours des roches qu'on exploite dans le monde, même si on ne l'exploite plus en France et particulièrement en Corse. Et moi, mon regard par rapport à ces roches, c'est que ça a été un empoisonnement de l'homme par l'homme et que comme toi, tu m'as ouvert les yeux sur le fait que ces roches, elles étaient aussi à l'origine de la vie. Mm-hmm. Mais ça, on va en venir un peu après. Et que du coup, je sais pas, j'apprends en fait tous les jours avec ces roches et elles sont très, très, très intéressantes pour eux là.
Ouais, il y a un grand spectre de différents effets de cette minérale sur le vie des hommes. Mais aussi sur une vie d'une planète, sur les processus qui se passent sur une planète ou non. Et c'est ça en fait qui est intéressant sur ces minéraux qui ont un groupe, quelquefois les amiantes. Mais oui, ce sont des minéraux qui comportent l'eau. Ouais.
Et du coup, ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand tu m'en as parlé des serpentines, c'est qu'elles ont vraiment un cycle de vie qui leur sont propres et que par leur changement de forme, elles se métamorphosent, elles sont vraiment polymorphes, comme ce qu'on disait. Okay. Et d'ailleurs, là, on a des échantillons un peu de ces roches à différentes formes, ou en tout cas, différentes situations de température et de pression qui ont fait que. Ouais. Donc, on a ici de la serpentine.
Oui. Ouais. On va commencer avec les roches qui est plus dangereux pour l'homme.
Voilà.
Qui en fait. On voit ici dans cette
bouquet.
En fait, on ne voit pas beaucoup les fibres, mais quand cette minéral interagit avec l'eau, quand une roche interagit avec l'eau, il y a encore plus de place, il n'y a pas beaucoup de pression, ça forme des fibres. On connaît comme les asbestos, comme les amiantes. Et cette forme de minéral, c'est dangereux pour nous. Mais quand il y a encore plus, un petit peu plus de pression, la même minéral peut se transformer dans cette roche qui, quand vous mettez dans votre main, vous regardez, c'est en fait glissant. Et c'est cette propriété qui fait glisser les plaques
tectoniques,
ouais, une sur l'autre. Et c'est que grâce à cette minéral, on a les tectoniques des plaques. C'est, en fait, c'est une échelle énorme des kilomètres, et c'est des échelles de billions d'années. On a déjà cette tectonique des plaques et on n'a qu'une atmosphère qu'on a maintenant grâce à ce mouvement. Et on aussi, en liant la vie grâce à ce processus. Et ce processus, il est unique. Maintenant, on ne connaît pas une autre planète qui a la tectonique des plaques. On cherche encore. Et c'est qu'est-ce qu'on cherche quelquefois sur les exoplanètes. Du coup, on va laisser
passer. On va les faire tourner, ouais. Et du coup, pour resituer, donc les fibres, les amiantes qui sont sous cette forme de fibres, c'est vraiment une interaction en fait entre l'eau de mer et, si j'ai bien compris, oui, hein, c'est vraiment les roches qui sortent au niveau des océans et qui viennent se gorger en eau et qui fait en fait ces formes de fibres. Donc c'est vraiment l'interaction entre l'eau de mer et...
Les roches qui viennent se former sur le... on parle des mid-ocean ridge...
Les dorsales.
Des dorsales, oui. Où, en fait, on a un endroit où, en fait, il y a le magma qui peut se former, peut être amené à la surface et refroidir. Mais la roche, il est encore un petit peu chaud. Et ça, la chaleur et l'eau invoquent en fait la formation d'un minéral qui capterait l'eau. Et ça, c'est le processus plus important. Et ça, c'est l'eau dedans de ce minéral fait ses différentes formes et fait aussi qu'il est glissant un peu. Parce qu'il fait des couches en fait. Ce minéral, il est très tolérant et il fait des couches. Et c'est pour ça, si on amène l'eau dans l'intérieur de la Terre, il y a beaucoup, beaucoup de processus qui sont liés grâce à cette eau. C'est en fait l'eau, il a amélioré ou il fait que les roches sont plus mous. Du coup, c'est ça en fait l'eau qui permet de bouger les roches dans l'intérieur de la Terre. Si on n'a pas ce mouvement, on est, par exemple, sur Mars, on n'a pas ce mouvement. Sur Vénus, qui est comme le sol de la Terre, de la même taille, on pense que se forme presque pareil, mais on n'a pas ce mouvement. Et l'atmosphère, il est complètement différent. Il n'y a pas de vie. On ne pense pas qu'il y a vie sur le Vénus. Donc on pense que grâce à ces formations de sept minérales, grâce qu'elle amène l'eau dans l'intérieur de la Terre, grâce, il fait bouger les roches encore plus. En fait, il n'amène pas que l'eau, il amène aussi le CO2, le carbone dioxyde. Et grâce à ça, ça réduit le carbone dioxyde dans l'atmosphère. Du coup, il y a tout un cycle lié avec cette minéral qui permet d'avoir la vie sur la Terre et de permettre d'avoir des processus sur une planète qui permettent la vie.
Ouais, oui. Du coup, moi, je vois un peu les serpentines et ces roches comme des vaisseaux spatiaux ou des capsules qui viennent prendre l'eau et les gaz de notre atmosphère et permettent justement ce mouvement vers les intérieurs de la Terre.
Oui.
Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair et que vous n'êtes pas trop perdus. Alors...
Donc j'ai une question sur
oui?
la composition chimique
oui?
de ces roches. Est-ce qu'elle est spécifique?
Du coup, tout commence avec une roche qui s'appelle olivine.
C'est une graphie, effectivement.
Oui.
Mais est-ce que les atomes, c'est du silicium, du silicone, du
oui, c'est ça. Tout en commence, c'est une roche non hydratée, ça s'appelle olivine, peut-être que vous avez déjà vu, c'est quelque chose.
C'est une pierre précieuse.
Précieuse, c'est vraiment comme les couleurs, c'est comme olive. Et c'est composition chimique, c'est plutôt le silicium avec magnésium et un petit peu de fer. Et les serpentines, elles ont la même, presque la même composition, plus l'eau. Et cette olivine, c'est le plus souvent minéral sur le manteau de la terre. C'est la plus souvent. Ouais.
Et dans l'amiante, du coup, c'est la cristallographie qui a généré ces...
Oui, ouais. Et l'olivine, elle est assez compacte. Mais quand on met l'eau, en fait, on forme des couches des tétraèdres de silicone et des octaèdres de magnésium oxyde. Et entre les deux, il y a l'eau et il y a beaucoup de place. Là, il y a en fait, entre le silicone et le magnésium, il y a en fait un mismatch. Ils n'ont pas la même taille, les deux différents. Oui. Et du coup, s'il manque l'aluminium, ils forment des boucles. Et ça, c'est fait les fibres. En fait, ça, c'est des fibres. Parce que, en fait, les structures, elles essaient d'adapter à ce mismatch. Mais quand on ajoute un petit peu d'aluminium, qui donne l'autre roche, qui est plus compacte, et aussi on met un peu plus de pression, ça forme des couches qui sont droites, mais petites, parce qu'en fait, il y a ce mismatch qui ne permet pas d'avoir un minéral comme, ou un cristal comme le diamant. Où il y a tout était très bien, et c'est
très ordonné,
très symétrique et très.
Là, c'est pas ordonné du tout.
Il y a cette mismatch. Je sais pas le mot pour penser.
Désaccord.
Ouais. Il y a un désaccord, mais ça fait aussi que cette minéral se peut se transformer dans différentes formes. Et il est pas rigide, il est assez tolérant et peut aussi amener beaucoup d'autres éléments. Qui sont grandes, comme l'eau, c'est une molécule assez grande, le CO2, ça c'est pas exact l'eau, mais en fait c'est une partie de l'eau qui peut se lier avec cette minéral, et dans cette capsule, il peut être amené à grande profondeur.
Et du coup, bah, j'en viens, ça me permet de suivre sur la prochaine question. Tu me disais que donc, les roches serpentines, elles transportent de l'eau, mais aussi des gaz nobles.
Oui.
Et toi, je crois que savoir que ton expérimentation en ce moment au synchrotron, c'est plutôt sur les gaz nobles.
Oui.
Et est-ce que tu peux un peu nous parler aussi de l'impact que les serpentines, elles arrivent à prendre du gaz avec elles et qu'est-ce que ça nous fait comprendre de nos planètes.
Qu'est-ce que je recherche, c'est comprendre comment notre atmosphère s'est formée, puisque on peut chercher peut-être une exoplanète qui ressemble à la Terre, ou peut se ressembler à la Terre dans quelques millions d'années. Et pour comprendre l'élément comme l'eau ou CO2, c'est mieux de prendre des éléments très rares qui n'interagissent pas beaucoup, comme les gaz rares. En fait, comme les xénon, krypton, argon, ils sont très très dilués. Il y a un atome par milliard d'autres atomes dans notre atmosphère, mais ils ne réagissent pas avec des autres atomes beaucoup. Du coup, on peut le prendre comme modèle. Et ça, c'est comme modèle pour les autres volatiles. On dit volatile, c'est tous les éléments, tout l'eau, CO2. En fait, ça, c'est des... Ça, c'est des éléments qui aiment bien être dans l'atmosphère. Et moi, je prends les gaz rares pour étudier, combien l'eau, combien CO2 était dans notre atmosphère et dans l'intérieur de la planète pendant différentes étapes de la planète. Et pour cela, en fait, je m'intéresse combien l'eau était amenée à la profondeur à cause de son effet profond. J'ai étudié le gaz rare pour savoir combien d'eau elle était amenée de la Terre.
À quelle profondeur
et des milliards d'années. Parce que les gaz rares ont aussi des isotopes radioactifs qui sont comme des chronomètres. Quand on voit cet isotope avec cette quantité, on sait, ce processus a pris 7 milliards d'années.
Okay.
Et on n'a pas ça sur l'eau, et on n'a pas ça sur les CO2. Du coup, il faut étudier des gaz plus rares pour comprendre toute la formation de l'atmosphère.
Okay.
Et combien l'eau elle est dans l'intérieur de la Terre, et comment cette eau elle a en fait avancé tous les processus comme les tectoniques des plaques, les volcanismes. Et oui, aussi, on sait que ce minéral il est lié à la vie, parce que quand il se forme, il prend qu'une partie de l'eau. L'eau, c'est H2O. Et cette minéral prend que OH. Il y a un H qui reste. Et quand il se forme, cet H récompose avec un autre, ça forme un hydrogène. L'hydrogène peut être utilisé par les bactéries pour respirer, comme nous on prend de l'oxygène. Et on a retrouvé la roche très très vieux, 3,5 milliards d'années, avec ce minéral et à côté des traces des premières vies, des bactéries. Et c'est pour ça qu'on lie ce minéral aussi comme point de départ pour la vie. Parce que c'est les bactéries qui peuvent se servir de ce gaz qui se forme pour respirer, la première bactérie. C'est, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont liées.
Une question, est-ce qu'il y a d'autres pierres qui ont cette propriété de capter la vie, l'eau je pense comme ça,
oui.
On connaît la pouvolane. Donc il me semble qu'elle a cette propriété effectivement de capter et qu'on les met des fois dans les jardins justement pour apporter une richesse, une biodiversité dans la terre. Donc est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut partir par exemple la pouvolane?
Il y a beaucoup de minéraux qui sont hydratés, qui portent l'eau. Mais il y a une diversité, c'est, oui. Il y a aussi, mais la propriété les plus, les clés, les propriétés clés, c'est que cette minéral-là, il forme le hydrogène. C'est aussi lié à la fer et le changement d'état d'oxygène. Mais c'est un peu... Mais cette minéral, elle est vraiment clé de produire les hydrogènes. Et cette minéral aussi a une structure qui est assez stable, qui peut être amenée très très basse dans les profondeurs de la Terre. Et cette minéral se forme déjà dans l'intérieur des plaques, où il y a les fissures et l'eau. Et c'est l'endroit où se forme, c'est, oui, c'est les propriétés des formes hydrogènes et ce sont stabilités qui sont importantes. Il y a plein d'autres minéraux qui sont hydratés, mais ils se décomposent. Dès qu'il y a un peu de chaleur, ils se décomposent, ils lâchent l'eau. Ils ne peuvent pas être amenés
aussi profondément.
Ouais. Après, oui.
Ils restent sur la surface.
Ouais.
Et ces glissements, Sarah? Parce que je vois dans ce que tu présentes là, où je vais éclairer, je vois effectivement des fibres. Moi, je ressens un peu le glissement, le côté microscopique, mais comme macroscopique des planètes, des exoplanètes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, ce qui t'a inspiré dans tous ces glissements, du côté scientifique et.
Ouais, bah du coup, je vais en venir à la lumière, et je crois que la lumière, ça fait partie de mon travail, mais du tien aussi. Et en fait, il se trouve que chaque minéraux a une signature qui lui est propre, et une manière en fait de, comment dire, d'un rapport à l'énergie, donc la lumière comme énergie, qui a une sorte de singularité dans, enfin... Toi, tu me disais qu'au synchrotron,
oui.
Ou même avec, non pas au synchrotron, mais par exemple avec, avec les rayons infrarouges, en fait avec des rayons infrarouges, on peut savoir, grâce aux satellites, en fait les satellites vont envoyer des rayons infrarouges sur par exemple des surfaces, sur la surface martienne par exemple, et du coup, suivant la réponse de ce signal, ça va permettre de savoir en fait quel est le minéral qui se trouve à cette surface, parce que chaque minéraux ont une pas une longueur d'onde, mais une énergie, ou comment on peut dire
À une façon, du coup, chaque minéral, à cause des arrangements des atomes, chaque minéral a une autre façon à interagir avec les lumières. Et avec les infrarouges, ça fait vibrer les atomes. Et après, les atomes, en fait, envoient une lumière avec une différente, avec une signature particulière. C'est comme
l'empreinte digitale.
L'empreinte. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut amener, par exemple, si on prend cette exoplanète, on peut amener un satellite qui envoie un signal et après un détecteur pour regarder, ok, ça c'est comment le signal il est réenvoyé. C'est quoi, quelle empreinte c'est dans ce signal. Et on recherche dans le labo, en fait, des roches reconnues. Ok, cette roche, cette minéral donne cette signal. C'est comme une conversation, en fait. On dit une question et on regarde qu'est-ce qui est réenvoyé. Que ces minéraux, ou chaque minéral, a qu'une réponse. Et c'est particulier. Et c'est pour ça qu'on peut, par exemple, regarder sur les planètes très loin. Par exemple, on a Encelade, c'est une lune de Jupiter. Sur Enceladus, on a vu que les signatures des serpentines. Sur Mars aussi, on a
trouvé des serpentines aussi sur Mars. Et d'ailleurs, sur Mars, elle nous dit qu'il y a eu des océans parce que les serpentines sont aussi formées par l'interaction avec de l'eau.
Oui.
Et de l'eau de mer, et du coup, on suspecte beaucoup la présence de l'eau sur Mars grâce à la présence des serpentines. Mais bon, du coup, pour en revenir à ce que moi, comment je l'interprète en tout cas dans mon rapport à la peinture, moi je travaille aussi la lumière. Donc là, par exemple, j'ai travaillé avec des microparticules d'aluminium qui diffractent la lumière de la projection. Donc, du coup, il y a cette idée de diffraction un peu comme. Les minéraux, ils peuvent diffracter la lumière d'une manière particulière. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était... Là, c'est un enregistrement d'une microscopie optique à lumière polarisante. En gros, c'est un système de... On observe, en fait, les matériaux. En fait, on va imaginer dans le spectre visible, enfin, la lumière visible, on a un spectre. Et du coup, à chaque fois, par exemple, si on... On enlève toute la longueur d'onde qui est dans les verts, et en gros, on va réussir à savoir que tel matériau, ça peut être, du chrysotile, qui est une des roches dans les amiantes, parce qu'elle a telle ou telle couleur. Et on sait que, en fait, dans tel spectre, il y aura telle couleur. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était que là, les laborantins, ils travaillent que par la couleur pour identifier, du coup, les roches. Et du coup, voilà, il y avait et en même temps ce rapport de diffraction, de comment on perçoit la lumière, mais par aussi une technologie particulière. Et voilà, et du coup, bon, moi, j'ai changé le rapport d'échelle. Et effectivement, là, on est sur de la microscopie, mais du coup en l'éclatant dans le format et en faisant, je trouvais que ça donnait un peu l'impression d'une lune ou d'une autre planète, et du coup c'est aussi l'impression que ça me donne quand on rentre dans la microscopie, on a vraiment un autre monde qui s'ouvre à soi et un univers très vaste, et donc c'est vrai que toujours ces rapports d'échelle, ça permet d'avoir des distances de regard différentes, quoi. Je sais pas si.
Oui, voilà.
C'est clair.
C'est clair, ok. J'en viens à comment un satellite peut-il renseigner la nature d'un minéral d'une autre planète. On en a parlé juste là. Et plutôt, alors du coup, comment les minéraux reflètent la lumière.
Oui.
Ça, c'est un peu. Voilà.
Oui.
On l'a déjà dit.
On l'a déjà dit.
Alors attends, qu'est-ce que... je suis un peu perdue là d'un coup. On a dit...
Ah, c'est...
Celle-là,
ouais.
ça, ça, tu l'as dit. Je crois qu'on a expliqué. Là, on était à quand, quand on a l'eau.
Ah oui, vous avez. Ah oui, oui, oui.
Ah oui, il y avait un truc qu'on n'a pas parlé. C'est à l'heure d'aujourd'hui. Donc, la grande question d'Angelica, c'est de savoir la quantité d'eau qu'on a dans les profondeurs de la Terre. Et du coup, ma question, ce serait, à l'heure d'aujourd'hui, à combien d'eau on estime posséder, enfin, la planète, enfin, combien d'eau il y a à l'intérieur de notre Terre et dans le monde terrestre.
Ok, bon, ça c'est une grande question encore. Et cette question, elle s'était posée il y a 12 ans pour ma défense de la thèse, qui était déjà sur cette question, et on peut dire qu'on ne sait pas encore très exactement. On sait qu'il y a au moins un océan, plus où on a 100 océans dans la profondeur de la Terre. Parce que, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? C'est, on sait qu'il y a un chemin pour l'eau. Il peut s'amener avec cette minéral et qui peut l'amener même en très profondeur. Mais on ne sait pas encore combien de temps ce processus a pris. Et on ne sait pas à quelle profondeur il a pris. Et c'est qu'est-ce qu'on recherche encore pour résoudre cette question, pour résoudre aussi les questions pourquoi on a une Terre comme ça aujourd'hui, et pourquoi elle est si différente entre Mars et Vénus qui sont juste à côté. Et du coup, c'est une question très ouverte encore. Mais on sait qu'il y a l'eau, au moins un océan. C'est déjà une grande quantité qui change beaucoup les comportements des roches. Et c'est important pour notre...
Pour la vie sur Terre.
Voilà, oui, pour notre vie.
Ouais. Parce que du coup, comprendre combien il y a d'eau à l'intérieur de la Terre, ça permettrait aussi de comprendre les autres planètes et aussi d'arriver à savoir quelles planètes seraient potentiellement des planètes sur lesquelles on pourrait avoir de la vie. C'est ça, hein, ce que j'ai.
C'est aussi une... c'est une des importances de l'eau, des volatiles, des éléments très légers. C'est aussi qu'il diminue le point de fusion des roches, mais aussi des alliages de fer. Des fers qui, dans le noyau de la Terre, en fait, on sait qu'on a un noyau qui est liquide, qui est le supérieur. Et le liquide, et grâce qu'il y a le volatile comme oxygène, hydrogène ou peut-être l'eau même, ou H, grâce à ça, on a un noyau qui est liquide, et grâce à ça, il y a aussi un effet de gradient de température, on a un mouvement dedans. Et ce mouvement est lié à le champ magnétique qu'on a. Et c'est aussi ça, en fait, il y a pas que l'importance de l'eau, c'est à la surface pour la vie. Elle a commencé dans l'océan. Elle a commencé peut-être à côté d'une serpentine. Et la serpentine amène l'eau dans l'intérieur. Elle fait fondre les roches, fait bouger les roches. Mais l'eau aussi fait qu'on a une champ magnétique qui protège la vie. En fait, c'est tout le profondeur, il faut comprendre combien de temps elle était là pour reconstruire la vie de la Terre, on peut dire, la formation de la Terre. Et quand on a compris ça, aussi on peut transférer cette savoir, cette connaissance pour notre voisin planète, mais aussi dans notre système solaire, où on peut essayer de retrouver les mêmes conditions, les mêmes, peut-être la même âge d'une planète, ou aussi la bonne distance entre un soleil, aussi la bonne composition de tout au début, le nuage où s'est formée la planète.
Et le côté un peu plus sombre de cette pierre, c'est-à-dire les dangers qu'on connaît sur l'amiante, est-ce que...
Un peu
nous éclairer là-dessus et en quoi éventuellement ça t'a inspiré dans ton travail.
Okay.
Question pour les deux.
Ouais, du coup, ce qui est dangereux, c'est pour les humains, c'est quand la roche, elle est sous cette forme de fibre, donc sous cet état-là, parce que quand elle est sous forme de serpentine, il n'y a aucun danger. Mais du coup, ce qui est dangereux pour l'humain, c'est de inhaler, de respirer la fibre. Parce que cette fibre, en fait, elle se plante dans nos poumons. Et quand elle s'est plantée dans les poumons, déjà, elle n'y part jamais. Elle reste à vie, plantée. Et en fait, ensuite, le corps, il se bat contre ces fibres. Et du coup, après, ça peut développer du coup, des cancers.
C'est l'interaction avec l'eau qui fait ça ? Et je veux dire, la fibre étant dans les poumons, est-ce que c'est aussi un lien que a cette pierre particulière avec l'eau ? Mm-hmm. Quand elle est chauffée, mise sous pression, qu'elle descend sous terre ou qu'elle est dans le corps humain
C'est lié que quand il y a une forme de fibre, c'est des très très fines fibres parce qu'à cette mismatch, parce qu'il y a. Cette structure ne peut pas former des cristaux comme le diamant. Mm-hmm. Cette structure peut former des fibres ou des choses qui sont un peu mal arrangées, mais glissantes, comme vous avez vu. Et quand il y a ces formes de fibres, en fait, les fibres ont des diamètres, des nanomètres. C'est des échelles très, très petites. Ouais. Et en fait, un peu le même, on ne voit pas. C'est ça le danger parce qu'on ne voit pas, mais quand on respire, ça c'est si petit que ça se colle sur le pneumon. Et ça c'est lié à la structure, lié à le fait qu'il y a l'eau. C'est sûr parce que l'eau fait que la structure se forme. En fait, oui, il y a une côté de cette minéral, elle a une côté noire, où il fait le. Mourir des gens, mais là aussi, ce côté qu'il fait une gaz, l'hydrogène qui peut-être a commencé la vie plus complexe, les bactéries. Oui, mais ça c'est lié à. Les deux liés à l'interaction l'eau, roche, et qu'est-ce qui se forme. Ouais.
Mais ouais, du coup, c'est vraiment cette idée que c'est l'eau qui a créé cette forme de structure. Et c'est cette forme-là de fibres qui sont comme des petites aiguilles, mais genre tellement petites. Enfin, pour les voir, il faut avoir. Déjà, on ne peut pas les voir à un microscope optique. Il faut avoir un microscope électronique, donc elle est encore plus loin, tellement c'est. Ouais, voilà, c'est en nanomètres, c'est tellement petit que. Enfin, c'est impossible de les voir à l'œil nu, quoi. Là, par exemple, dans le bocal que vous a fait tourner, en fait, les fibres. Pour la plupart, vous ne les voyez pas, en fait.
Mais il y a des propriétés qui sont précieuses. Oui, c'est un précieux pour nous. C'est quelque chose léger, facilement à mettre dans le mur, qui a isolé bien. Parce qu'en fait, il est assez large. Et peut, entre les fibres, on a l'air. Et c'est l'air qui isole très bien. Au début, c'était en fait, on a pensé ces roches, elles vont nous aider. C'est pratique, elle est légère, elle est pas tout, on peut le mettre dans le bâtiment. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont liées à son structure. Mais après, on a compris, non? Parce que cette fibre, elle peut casser facilement, elles sont dans l'air. Et si on les respire, elles vont. Ça, c'est.
Et il y avait aussi cette propriété des fibres, du coup, qu'elles ne prennent jamais feu, quoi, qu'elles soient.
Ouais, ouais.
Et ça, je pense que c'est aussi le fait qu'elles contiennent de l'eau et que, du coup, elles brûlent jamais. Ah, ou ouais. En tout cas, dans des températures qui sont très extrêmes. Oui, oui. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup l'amiante. C'était vraiment aussi pour son côté, voilà, ça ne brûle pas. Du coup, c'était un isolant super parce que, du coup, les maisons, elles ne prenaient plus feu. Enfin. Il y avait tout ce rapport-là aussi, qui était important pour la construction.
Yeah.
Et d'ailleurs, on s'en est servi pour tout, hein, les fers à repasser, j'en cite, il y a eu plein. Et puis aussi dans les voitures.
Elle a une stabilité, cette minéral.
Ouais, elle est incroyable. En fait, c'est aussi un des. Enfin, je sais pas, je me rappelais que Jean-Philippe il m'avait dit que c'était un des plus vieux minéraux, non c'était...
Oui, ouais.
Et que c'est vraiment une sorte de. Dinosaures des minéraux,
oui.
Et que c'est grâce à lui qu'on est aussi là, quoi. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'on donne toujours cette image de l'amiante en fait comme un matériau industriel
Et au final, on sait très peu ce que c'est. Et du coup, c'était pour moi important de changer notre rapport à la nature et aussi voir que peut-être ce minéral qu'on a utilisé sans vraiment connaître tout de lui, on s'est empoisonné nous-mêmes, quoi. Mais bon, il a aussi permis sûrement la vie sur Terre, donc voilà. D'ailleurs, je pense, est-ce que vous avez des questions à nous poser ? N'hésitez pas.
Du coup, sur la roche que tu as fait tourner, là, si on met de l'eau dessus, elle se transformerait en amiante ?
Non, mais là, elle a déjà l'eau. Ouais. C'est déjà hydraté. En fait, il prend une grande quantité, il a plus de 10%. Ça veut dire que si vous avez 10 grammes de cette minéral, il y a 1 gramme d'eau l'eau dedans.
C'est énorme.
C'est énorme.
1 gramme d'eau dans 10 grammes de pierre, c'est énorme pour une roche.
Yeah. C'est
une piscine, tu veux dire. C'est comme des piscines, les serpentines, quoi. Tellement elles ont d'eau à l'intérieur d'elles.
Ouais. Non, mais là, elle est transformée, elle a trouvé une forme stable. Même si on met de l'eau, elle est stable sur la surface. Il faut chauffer très fort, puisqu'il peut lui déhydrater pour sortir l'eau, en fait.
Il faut monter dans des températures très très hautes et aussi des conditions de pression. Et là, d'ailleurs, ce que vous voyez dans l'exposition, les coffalites, c'est effectivement donc, plein de déchets d'amiante. Mais ce qu'ils appellent déchets d'amiante, en fait, c'est les déchets du désamiantage. Donc, ça comprend aussi genre, toutes les combinaisons, les polyuréthanes, du plastique, ça comprend plein de choses. Mais dedans, il y a l'amiante. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils refont chauffer l'amiante, les déchets d'amiante, parce que ce n'est pas que de l'amiante, à plus de, je sais plus exactement, plus de 2000 degrés, pour arriver en fait à une température qui permet en fait de déstructurer la roche. Et du coup, par le fait que là, il n'y a plus d'interaction avec de l'eau et qu'on est aussi sur, on n'a pas les mêmes conditions de pression, etc., ça transforme en fait en verre. Parce que c'est un mélange de calcium, de silicium et de...
Mais au début, tu formes une sorte de magma, une liquide. Ouais, c'est vraiment liquidifié, complètement déhydraté. C'est et vraiment décomposé complètement cette dangereuse fibre pour qu'il n'y a que le... qui reste, que c'est que déhydraté, c'est anhydrous. Ouais. Sans l'eau, et on refroidit ça très vite pour qu'elle ne réagisse pas avec l'eau qui est autour dans l'atmosphère. Et ça forme des roches comme dans les volcans, c'est des roches, des verres en fait, où il y a... Oui, c'est comme... Ouais, refroidir très vite.
Donc en gros là, ce que vous voyez, c'est un peu derrière, c'est un peu des résidus d'un volcan artificiel, mais qui ferait que... On refroidit tellement vite qu'on n'arrivera pas forcément... Enfin, voilà, on arrive à cette forme de verre. Et du coup, qui est plus dangereux pour l'homme. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant en plongeant dans toutes les roches, et j'avais jamais imaginé et conceptualisé qu'une roche, ça pouvait être un liquide. Et c'est vrai que quand on pense roche, pour moi, dans ma tête, c'était un solide. Et en fait, après, on change toute notre manière de voir et on se dit qu'à l'intérieur de la Terre, en fait, il y a l'atmosphère... Enfin, il y a le gaz, il y a tout, il y a l'air, la terre, l'eau, et que en fait les roches c'est aussi des solides et que tout est question de cycle.
Il y a une interaction qui est déjà là depuis des milliards d'années et qui nous a mené jusqu'à là entre le solide, la roche, l'atmosphère et le liquide comme le ça peut être le fluide. Ou le magma, quelque chose fondu. Et c'est comprendre tout ça, c'est...
Ouais, c'est assez vertigineux, quoi. Ouais.
C'est une question, hein, vous n'hésitez pas, mais moi j'en avais ce côté cercle qui revient ici, là-bas, c'est un choix, moi je me projette, hein, donc je vois un peu l'eau, je vois aussi le côté cyclique dont vous parlez toutes les deux. Est-ce que tu es un peu nous éclairer ou toi sur tes choix
Ah bah là, en gros, là j'invente rien parce que en gros, quand le laborantin il regarde les fibres, les matériaux qu'il a voilà, à regarder, et en fait il tourne une sorte de molette qui fait qu'il change de spectre de lumière. Et donc du coup, ce mouvement-là, c'est vraiment, là c'est des images brutes de microscopie. Et ce qui se passe, c'est que les images sont brutes, mais par le travail de lumière et de sculpture que j'ai fait, tout est diffracté. Donc c'est pour ça aussi qu'en fait, quand c'est blanc, on a l'impression qu'on a un arc-en-ciel, parce que c'est vraiment la diffraction de la lumière. Et du coup, le forme ronde, c'est moi qui j'ai fait un masque, parce que déjà, ça me rappelait à quand on regarde dans un œilleton de microscope, ça me rappelait la boîte de Pétri, puis ça me rappelait aussi l'idée de la planète.
Oui.
Mais c'était une forme, je trouvais ça intéressant ce format-là. Donc ça, c'est vraiment un choix de mise en scène au chef.
Ça va. Oui.
Bah, allez, Clara.
Pourquoi du coup toutes les pierres ici n'ont pas la même couleur si elles ont toutes de l'amiante?
Et bah, en fait, c'est différents oxydes de fer qui donnent la couleur de ces roches. Et aussi, toi, tu m'expliquais que les bulles qu'on voit, c'est aussi suivant comment le gaz. Reparle-moi de ça.
Si on a les liquides, il y a encore les gaz dedans et on les refroidit un peu plus longtemps que le gaz peut être. Mettre dans la forme gazeuse et pas dissolue dans le liquide, en fait, ça forme des bulles qui sont vues dans quelques roches. Ça dépend de la temps de refroidissement. Si on fait très très vite, il y a des verres où vous ne voyez rien. Et si on peut conserver les éléments qui veulent en fait aller dans l'atmosphère, on peut conserver dans les verres. Si on refroidit un peu plus lentement, cet élément va se rejoindre et faire des bulles et essayer d'échapper. Et les différentes couleurs, en fait, oui, il n'y a pas que l'amiante dans les déchets, ouais. Il y a aussi des autres déchets. Il y a par exemple une roche qui est bleue, ça peut être le cuivre, il y a une roche qui est vert, et ça, qui est vert un peu. Pas très vert foncé, mais l'autre vert clair. Du coup, celui-là peut-être c'était une amiante peut-être avant parce que oui, ça c'est la même couleur que vous avez passé.
Donc,
un peu
l'amiante est couleur verte.
Oui, il est normalement couleur vert, comme l'olivine il est vert foncé, l'amiante il a l'eau, il est vert un peu plus clair. Et celui-là il est pas du tout cristalline, il comporte quantité de fer qui est dans un état d'oxydation particulier, c'est 2+, et ça fait vert. Et quand il y a plus d'oxygène autour du fer, il fait une roche rouge. En fait, dans le Mars, par exemple, il est rouge, la surface, parce qu'il forme tout le roche, ils ont interagi avec l'atmosphère qui a eu l'oxygène. Il s'est transformé en roche rouge. Avant, c'était vert, après, c'était rouge, quand il y a oxygène. Ouais.
Et Jean-Claude, du coup, tu avais une question?
Oui, tu nous as expliqué au début pourquoi tu voulais interagir avec le monde de la science. Moi, j'ai une question inverse. C'est pourquoi une chercheuse, une scientifique, qu'est-ce qui l'a motivé à discuter avec une artiste? Et puis, la conclusion de tout cela, qu'est-ce que ça vous a apporté à chacune d'entre vous de discuter avec un monde que vous ne connaissiez pas a priori?
Ah, oui. Moi, c'est ça. Cette minéral, c'est un peu ma passion. Du coup, si quelqu'un vient de parler de moi de cette minéral, c'est pour moi une façon d'échanger aussi des passions et des questions on a tout autour. Et je suis toujours intéressée par les façons dont les gens regardent un objet, parce qu'il y a des scientifiques qui a le regard, mais je trouve aussi que c'est très intéressant d'avoir conscience de notre regard, parce que comme ça, on a ça enrichit aussi la façon à comprendre le monde, comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la terre. C'est en fait, c'était quand elle m'a, quand on a oui, interagi, c'était quelque chose, je trouve, cet enrichissement. Et pour moi, c'était oui, quelque chose que je trouve très intéressant. Après aussi, des façons artistiques, aussi la façon, oui, comme elle montre en fait notre monde à Sarah. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'elle fait dans une façon qui ne juge pas, qui prend tout de façon, soit c'est noir, soit c'est positif, soit c'est négatif, et juste qu'elle amène toutes les informations. Et ça c'est quelque chose que je trouve impressionnant, et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec elle. Parce que je pense que si on arrive à faire ça, on a une façon à regarder des choses plus claires. Ouais. Et moi, je ne sais pas.
Bah moi, Angelica, ça m'a vraiment ouvert mon regard, quoi. Bah, de tout ce que tu m'as transmis, que tu m'as appris. Et du coup, je pense qu'en fait, on partage la même passion, parce que c'est vrai que moi, ça fait déjà... Bah, là, j'entame ma 4e année où je travaille dessus. Et effectivement, je crois que ça devient une passion, en fait, les minéraux, et puis leur observation. Et du coup, bah, c'est ça, je pense qu'on est deux passionnés qui se sont rencontrés sur un sujet où moi, c'est vrai que j'ai beaucoup moins j'ai pas toi, ce que je trouve génial, c'est que tu as pu me partager toutes les expérimentations que tu as pu faire, et puis tu as aussi des moyens de vision qui sont pas les miens, et du coup toi tu peux vraiment aller voir à l'échelle atomique avec le synchrotron, et d'avoir tout ton regard, toute ta richesse, toutes tes expérimentations, de les partager avec moi. Moi, je suis trop contente, quoi, de ça. Et je pense que, ouais, c'est ça, on est deux passionnés. Et on n'a pas eu les mêmes éducations.
Ouais.
Toi, plus scientifique, moi, plus artistique. Et après, on se rejoint, quoi. Et c'est chouette parce que, bah, ça, on s'enrichit l'une et l'autre. Voilà.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de féminin dans les deux approches, ou c'est seulement poétique
Féminin.
Tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de l'approche féminine dans ta démarche féministe, en tout cas. Pas du tout, non,
c'est un instant. Ouais, écoféministe. Ah, bah, bien sûr. L'écoféminisme, moi, ça m'aide à penser le monde chaque jour. Et ça m'aide vraiment à déconstruire notre rapport au monde. Parce que pour moi, c'est vrai que, bah, mais même on voit en fait, déjà la science, elle est énormément régie par des hommes blancs. Et du coup, bah, la science-fiction aussi, que je lis beaucoup, elle a été beaucoup entreprise par des hommes blancs. Et c'est sûr que ça a changé notre perception du monde. Déjà, rien que de penser notre monde comme une ressource à exploiter, comme penser la Terre comme un objet, et bah, déjà, rien que ça, ça change notre rapport. Et du coup, ce qui fait que, bah, avec l'écoféminisme et avec toutes les penseuses qui ont aidé à redécouvrir ce regard et ce rapport de domination sur la nature, mais qui est énormément en lien avec la domination qu'il y a actuellement sur les femmes et qu'il y a toujours eu. Et bah voilà, du coup tout ça, en fait, ça m'aide à percevoir le monde. Et par exemple, dans cette exposition, concrètement, c'est de vraiment ne pas faire de hiérarchie entre les espèces, et d'intégrer les espèces minérales comme des êtres vivants, et les mettre à notre même échelle. Et ça, c'est l'écoféminisme qui m'a permis de le regarder de cette manière-là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un spectre qui m'ouvre les yeux, quoi. Je crois que le féminisme, ça m'aide vraiment dans mon travail, de penser le monde.
Ouais.
Et voilà, et aussi de toujours avoir une... En fait, je pense que que dans la science, et ça c'est Donna Haraway qui m'a beaucoup aidé à penser ça, c'est que en fait on a tous des paroles situées. Et que en fait, d'où je parle, de ma classe sociale, du fait que je sois blanche, femme, et ben ça va forcément influencer sur ma manière de voir. Et ça n'existe pas en fait, des personnes qui sont... En fait, pendant longtemps, la science, on a dit, voilà, il y avait une parole qui était, comment dire, neutre, un personnage neutre, et en fait, le personnage neutre n'existe pas. Toute parole est située. Et ça, c'est hyper important d'y penser. Et du coup, bah, moi, je parle avec tout ça, tout ce bagage. Voilà.
Merci pour votre
Merci, hein, merci beaucoup.